La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette série spéciale consacrée aux liens qui existent entre le philosophe et leur mère. Après avoir notamment parlé de Socrate dans un précédent numéro, nous allons revenir aujourd'hui sur Marc Aurèle. Comment sa mère a-t-elle influencé ce philosophe et empereur romain du IIe siècle ? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Louis Siani. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Siani, vous êtes vous-même philosophe et vous êtes penché à travers votre ouvrage « La mère et le philosophe » aux éditions Le Bord de l'eau sur ces relations méconnues des philosophes avec leur mère. Alors Jean-Louis Siani, Marc Aurèle est un philosophe, un empereur, c'est plutôt rare un philosophe empereur, non ?
Alors bon, dans la famille des philosophes, on trouve un peu de tout, hein, c'est une famille métissée. Alors, il y a des professeurs, bien sûr, mais il y a aussi un SDF comme Diogène, un condamné à mort comme Socrate, un esclave affranchi comme Épictète et un martyr comme Giordano Bruno, il ne faut pas l'oublier, mais aussi un empereur, Marc Aurèle. Alors, peut-être un mot sur l'homme avant
oui,
de parler
qui était-il
de sa mère. Il vit au IIe siècle de notre ère, hein, il règne de 160 à 180, à l'apogée donc de l'Empire romain. Mais dans les dernières années de sa vie, il est embourbé dans une guerre interminable sur les bords du Danube contre les tribus barbares. Et il va mourir là-bas sans qu'on sache bien de quoi, de la peste ou d'un empoisonnement. Mais le soir, donc cet homme qui est un peu le maître d'une partie du monde antique, eh bien sous sa tente,
il philosophe
et il rédige donc ce qu'on a appelé des pensées. Sont en réalité des petits exercices de méditation stoïcienne, comme si cet empereur éprouvait le besoin de mettre sa vie mettre un peu d'ordre dans sa vie, de se donner du courage. Et c'est dans ses notes précisément qu'il évoque sa mère Domitia Lucilla.
Alors avant de parler de sa mère Domitia Lucilla, en quoi consistait une méditation stoïcienne et donc plus largement le stoïcisme, qu'est-ce que c'est ?
Alors le stoïcisme c'est d'abord une des grandes écoles de philosophie de l'Antiquité, elle a vu le jour en Grèce, mais elle s'est surtout développée sous l'Empire romain avec des auteurs comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Bon, c'est difficile de résumer en quelques mots une philosophie majeure qui a inspiré toute la philosophie occidentale et qui inspire encore notre vie. Ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est qu'être stoïcien, c'est pas simplement avoir une vision du monde, une théorie, une représentation. C'est d'abord vivre un stoïcien, c'est adopter un mode de vie. Alors je donnerai un exemple un peu basique et caricatural. Être stoïcien, c'est estimer que les événements qui nous arrivent sont causés par le destin. Alors exemple, je laisse tomber mon téléphone portable, il se brise, je n'y peux rien, cela relève de l'ordre du monde. En revanche, ce qui dépend de moi, c'est ma réaction à l'événement, la façon dont je le perçois, dont je l'interprète et dont je le transforme.
Donc le stoïcisme, en fait, c'est se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres sur lesquelles on n'a aucune influence, c'est
tout,
ça ?
Tout à fait. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et qui sont dans l'ordre des choses, précisément. Et puis il y a des choses qui dépendent de nous. Alors qu'est-ce qui dépend de nous ? Eh bien, de bien juger, c'est-à-dire de se défaire de ses erreurs, de ses illusions, bien conduire son désir, contrôler ses passions, on peut mettre un peu d'ordre, hein. Et puis bien agir, c'est-à-dire rechercher ce qui est juste et ce qui contribue au développement de l'altruisme. Bon, ça, c'est les trois règles. Hein. Et chacun doit, dans son fort intérieur, solliciter ce que les stoïciens appellent un principe directeur, une sorte de pilotage intérieur qui oriente toutes les conduites pour maîtriser précisément ce qui dépend de nous. Alors la naissance, la richesse, la réputation... Tout ça ne dépend pas de nous. Hein. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est de vivre selon la raison. Hein. Et plus que le plaisir de vivre, le stoïcien, il a une haute exigence morale, il veut rechercher la vertu. Donc c'est vivre un stoïcien, c'est aussi vivre de peu. Hein, ne pas être cupide, ne pas chercher l'enrichissement.
Alors là, vous nous parlez du stoïcisme et on a parlé de méditation stoïcienne. La différence ?
Alors la méditation, c'est précisément, et c'est ce qu'il fait sous sa tente à travers ses notes.
Marc Aurèle. Hein.
Voilà, ce que Marc Aurèle fait, c'est qu'il pose ses fondamentaux et tous les jours, il essaie par le rappel de ces fondamentaux, de tenir cette ligne, hein, bien penser, bien désirer, bien agir. Mm-hmm. Hein. Donc c'est ça la méditation stoïcienne.
C'est-à-dire qu'il met en pratique les valeurs du stoïcisme. En fait.
Oui, avec des techniques très particulières, comme regarder sa vie d'en haut, observer la décomposition physique de ses contradicteurs ou de son adversaire. Oui, c'est ça la méditation stoïcienne qui est... un des volets de la vie stoïcienne.
Donc c'est ce que faisait Marc Aurèle sous sa tente.
C'est ce qu'il faisait. Donc au début des pensées, notamment, il recense tous les gens qui ont compté pour lui, hein, puisqu'il est en train de faire, en fait, c'est ça, une sorte de consolation. C'est un exercice stoïcien, la consolation, c'est-à-dire on se console des vicissitudes du monde en se rappelant les fondamentaux. Et donc là, au début, il recense tous les gens qui l'ont aidé à se former. Et il fait référence à sa mère, Domitia Lucilla, qui, la première, l'a initiée au stoïcisme.
C'est-à-dire, elle l'a initiée au stoïcisme, qu'est-ce qu'elle a fait, comment ça s'est passé?
Eh bien, il a perdu son père. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il perd son père à 3 ans. Hein, et il le dit au début des pensées, il dit « Voilà ce que j'ai retenu de ma mère, la piété, la disposition à donner généreusement, l'horreur non seulement de mal faire, mais de penser quelque chose de mal. En outre, la frugalité dans le régime de vie, très loin de la manière de vivre des riches. » Donc voilà le don qu'il a eu de sa mère et sur lequel il a construit sa philosophie et puis ensuite ses règles de vie. Donc c'est la mère, vous voyez, la mère de Marc Aurèle, c'est une mère fondatrice, une mère initiatrice, puisqu'il n'a pas de père. Mmh. Et c'est une mère qui donne des repères indispensables à la construction de soi et finalement, c'est vers elle qu'il revient comme à sa source, à la fin d'une vie, hein, alors que d'une vie de pouvoir, de combat. Et voilà, il fait un peu un hommage aux vertus maternelles.
D'accord, il s'y réfère tout le temps, c'est sa première voie d'accès au monde, en fait.
Voilà, il ne s'y réfère pas tout le temps, mais c'est une référence première, hein, qui fonde toutes les autres.
L'élément fondateur.
Voilà.
Alors, la mère, la première initiatrice, c'est bien ça?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit dans le cas, entre guillemets, Marc Aurèle, eh bien, on voit aussi ce que les psychanalystes du XXe siècle, notamment et encore aujourd'hui, constatent. Et notamment, le psychiatre et psychanalyste anglais Winnicott, qui a montré que la conscience morale d'un individu, elle provient de l'éducation que nous avons reçue.
Et de plus, ce lien mère-enfant.
Et plus encore, voilà, des premiers soins qui ont été donnés et qui ont été reçus par l'enfant. Donc, en répondant aux besoins du nourrisson, c'est ce qu'explique Winnicott, eh bien, la mère, elle conjure le désordre qu'on a dans notre vie psychique quand on est un bébé. Hein. Donc, ce qu'il dit, c'est que la mère de l'enfant, qui a éveillé en lui l'amour, et à la fois l'amour et la colère, elle continue à exister et à être en elle-même, ce qui a permis à l'enfant de rassembler dans sa personne ce qui semble bon et ce qui semble mauvais.
Donc ça, c'est ce que Winnicott dit.
Voilà. Dans la relation à la mère, dans les premiers soins, on a cette séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Et c'est ce que, la mère de Marc Aurèle, l'empereur, donc, a accompli.
Tout à fait. Il me semble, parce qu'on retrouve aussi, un peu plus loin dans les pensées, une phrase assez... énigmatique, hein, mais que chacun comprend avec son cœur, je dirais, il dit « prendre avec simplicité et lâcher facilement ». Donc, voyant l'absence de père, de modèle paternel, il a trouvé autour de cette mère bonne la relation primaire, puis les repères éthiques qui servent de fondement au stoïcisme, à son stoïcisme.
Alors, pour conclure, est-ce que Marc Aurèle a été un bon empereur avec justement suite à cette relation mère-enfant, son stoïcisme a-t-il orienté sa politique?
Alors, il s'est efforcé d'être un bon empereur, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Il était aimé de son peuple et il a même décrété que les gladiateurs devaient se battre avec des armes émoussées. Hein. Donc, c'était quelqu'un quand même qui avait des vertus, c'était un travailleur infatigable, il a voué toute sa vie au service de l'État. Bon, ça n'a pas empêché non plus de massacrer les chrétiens, mais bon, c'était un contexte particulier d'une religion d'État que le christianisme venait contester. Donc voilà, la vie nous montre les limites du stoïcisme. Si on idéalise trop la vie, on ne peut pas atteindre ses exigences et il faut s'arranger avec soi après.
Donc, est-ce qu'on peut remercier la mère de la mère de Marc Aurel?
Oui,
finalement,
moi, je pense que oui, parce qu'il dit quelque chose qui est très très important pour quand même quelqu'un qui est le maître d'une partie du monde antique. Il dit « La bonté est invincible. Ce n'est pas la colère qui est virile, mais c'est la douceur et la délicatesse. Car c'est parce qu'elles sont plus humaines qu'elles sont... C'est pas parce qu'elles sont plus humaines qu'elles sont plus viriles. » Voilà, bon, c'est un peu ça l'idée, un peu de douceur dans ce monde de brut. Et moi, je dirais merci à la mère de Marc Aurel, merci Domitia Lucilla.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Louis Siani. Je rappelle que vous êtes philosophe, auteur de nombreux ouvrages, dont La mère et le philosophe aux éditions Le Bordelot. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro.
Avec plaisir.
Merci.
On a encore quelques-uns à explorer.
Merci beaucoup, merci à tous de votre fidélité sur Radio Aviva.
La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.